Vous êtes sur CFM Radio, Visa pour l'inconnu, émission présentée et proposée par Michel Montbressou et Didier Dumas.
Nous recevons aujourd'hui Monsieur Michel Delpech, excusez-moi, qu'il est agréable de connaître. Il préside sa communauté à Monteil et il est président aussi de la communauté des communes. La communauté des communes qui comprend 28 000 habitants et 29 communes. Mais on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Et je vais donner la parole à ce cher monsieur qui est à côté de nous. Nous sommes heureux de vous recevoir, Monsieur Delpech. Alors dites-nous tout simplement qui vous êtes.
D'abord bonjour à tous les auditeurs et merci de me recevoir aujourd'hui. Et c'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. Alors qui je suis? Eh bien voilà, je suis né à Villefranche. Donc j'étais expatrié pendant des années sur Bordeaux. Je suis parti à l'âge de 14 ans, j'ai suivi ma famille, quoi. Et puis le désir de revenir a fait que, sur mes terres natales, a fait que je suis revenu à Monteil reprendre la boulangerie donc, de Monteil. J'avais 32 ou 3 ans, d'un 35 ans peut-être. Donc et j'ai repris la boulangerie de Monteil, que j'ai exploité pendant 13 ans. Puis après j'ai changé, pour des raisons de santé, j'ai arrêté la boulangerie, je suis parti sur d'autres métiers en tant que salarié. Et j'ai fini ma carrière à Villefranche, dans une entreprise villefranchoise, dans les cheminées. Et voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené à la politique ?
Oh, le goût, j'ai toujours été, je me suis toujours occupé beaucoup d'associations. Tout jeune, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune, dans la région bordelaise. J'ai créé, à 16 ans, 17 ans, on a créé une école de rugby avec mes frères. Puis de là, on a enchaîné. Le monde associatif m'a toujours plu. Et puis, l'intérêt, je pense, c'est l'intérêt de l'autre, quoi, c'est tout. C'est l'envie de s'occuper, de faire vivre un village. Moi, mon premier but, quand je me suis présenté la première fois aux électeurs, c'était faire vivre le village, quoi.
C'est pas un gros mot presque politique quand on a le goût du service comme vous. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, gros mot, moi je pense que si on le prend dans le sens étymologique, c'est un très beau mot. Politique, ça veut dire s'occuper du peuple.
Ça.
Et moi je pense que c'est ce qu'oublient souvent les élus, notre rôle d'élu, c'est ça. On est là pour s'occuper du peuple, pour leur faciliter la vie, pour être au contact des citoyens. Et je pense que le rôle de maire, moi je pense que c'est l'élu, de proximité par essence, c'est le maire. À mes yeux, il n'y a pas un élu plus proche du citoyen que le maire. Voilà.
Il faut avoir une certaine indépendance d'esprit et de comportement.
Voilà, après, moi je n'ai pas d'affiliation à aucun parti, j'aime bien ma liberté de penser. Et d'agir. Et je pense que c'est important, et surtout dans une petite commune où on n'a pas le poids de la politique, du mot politique au mauvais sens du terme, comme on peut l'entendre dans les hautes sphères de la politique française. Nous, on a vraiment une approche locale. Moi c'est ça. Ce qui m'intéresse c'est le bien-être de nos citoyens, c'est le développement de notre territoire, c'est toutes ces choses-là qui m'intéressent. Le reste, les pensées de l'un ou de l'autre, j'en ai rien à faire.
On peut remarquer que les sondages qui sortent sont tous en faveur, effectivement, quant aux élus, en faveur des maires, et largement.
Oui, mais c'est normal, c'est l'élu de proximité. Le citoyen, quand il a un problème, qui c'est qui l'interpelle? C'est son maire. Même quand c'est un problème qui ne concerne pas forcément la mairie, c'est pas une de ses compétences, il va voir le maire parce que c'est le premier magistrat de la commune et c'est à lui c'est vers lui qu'on peut se retourner. Enfin, c'est normal.
Voilà, et on remarque que les personnes maintenant sont beaucoup dans la demande et oublient un petit peu leurs devoirs.
Oui, c'est un peu le problème de la société actuelle, quoi. C'est qu'on a beaucoup de droits et très peu de devoirs. Mais bon, je pense que ça vient aussi, il y a tout un tas de phénomènes, l'individualisation de l'être humain, téléphone portable, ces choses-là, ça fait, on s'individualise. Autrefois, on avait besoin des uns des autres. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin à Monteil, les voisins, quand on faisait les vendanges, quand on faisait chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se faisait dans le village,
oui, c'était avec tout c'était le monde un groupe, se mettait en communauté
et on travaillait en communauté. Voilà. Maintenant c'est fini, il y a plus c'est... même les agriculteurs travaillent. Oui, ça... quelques-uns travaillent en commun, mais les autres travaillent c'est individuel quoi. Oui. On a un travail individuel qui a individualisé la société. Le téléphone en a rajouté une couche. Le Covid est passé derrière, nous a fait 2 ans d'individualisme à outrance. Donc on est dans une société qui s'est fortement individualisé et qui en attente donc des citoyens qui sont en attente de beaucoup, c'est-à-dire ils attendent de l'État, ils attendent de toutes les institutions. Et par contre, on a oublié qu'on avait des devoirs aussi. On est des citoyens, on a des devoirs. Et ça, c'est important, il me semble.
Oui, alors là, de vivre en communauté, c'est vrai qu'aussi ce qui s'est passé, c'est que le monde agricole dans son travail s'est beaucoup matérialisé.
Oui, oui.
Il y a ça aussi qui a disparu. Alors, je crois qu'on peut pas revenir en arrière. Mmh. Et il faut essayer peut-être de rééquilibrer ce qui se passe actuellement, parce qu'effectivement, les responsables ont beaucoup de charges par rapport aux gens qu'il faut parfois mener par la main, quoi.
Mmh. Oui, c'est un problème. Enfin, c'est une évolution de la société qu'il faut prendre en compte. Les personnes en général, les citoyens, se sont recentrés sur eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, ils voient leurs petits problèmes. C'est un peu le problème. Enfin, les soucis qu'on a dans les collectivités, c'est ça. C'est qu'on a, les gens sont recentrés sur leurs problèmes et ne voient pas le problème à l'échelon du voisinage ou même plus loin, plus grand, à l'échelon d'un territoire. Mais ça, c'est des réflexes, quoi. C'est des réflexes d'autoprotection.
Oui, mais par d'égoïsme, peut-être aussi.
Oui, mais alors peut-être on a passé aussi des années où je pense qu'on subit aussi le contre-coup de la crise. On a passé des années, enfin nous on fait partie de la génération, enfin moi je fais partie de cette génération qui a toujours fait en progressant, quoi. Enfin, moi je fais partie, je suis né en 53, donc on est passé après toutes les guerres, hein. On n'a pas eu de guerre, hein. On a eu l'évolution de la société qui s'est libérée, on avait vraiment tous les drapeaux verts, quoi. Et là maintenant, on prend un peu le drapeau rouge de face et c'est un peu dur pour toute la société et surtout, même je pense que c'est encore pour les jeunes qui arrivent maintenant, ça va être plus dur que nous, que ce qu'on a vécu parce que ils ont beaucoup de choses et on leur crée des besoins de parce que tout ce qui est créé par les nouvelles technologies, tout ça, ils ont des besoins que nous n'avions pas.
Vous avez une bonne analyse, monsieur le maire. Vous avez une bonne analyse.
Je ne sais pas si j'ai une bonne analyse, c'est la mienne.
Vous avez dit il y a quelques minutes, avant on avait besoin les uns des autres.
Oui.
Mais aujourd'hui aussi on a toujours besoin les uns des autres. Sauf que le besoin n'est pas le même et la façon de rendre le service ne se fait pas de la même manière. Et quand, par exemple, vous qui aujourd'hui présidez une communauté de communes, ça symbolise bien ce besoin que l'on a de se mutualiser. Donc on a vraiment besoin les uns des autres, mais sous une forme différente. Alors, comment êtes-vous passé de votre mandat de maire à celui de président du conseil des communautés de l'Ouest Aveyron ? Il y avait une volonté, bon, vous avez été élu, c'est sûr. Et dans votre démarche personnelle, qu'est-ce qui vous a motivé ?
Alors, j'ai été maire donc, de Monteil, sous le mandat de M. Roch, qui a présidé donc, la communauté de communes. Il m'avait confié donc, une vice-présidence au sport. Sur lesquels on avait fait une réflexion qui n'avançait pas comme je voulais, quoi. On n'arrivait pas à faire ce que je voulais, donc j'étais prêt, moi, à laisser tomber. Et puis, monsieur Roch m'a confié le développement des énergies renouvelables, donc tout ce qui était le plan climat et énergie du territoire. Et là, c'est quelque chose qui m'a pris, donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé que la démarche qu'on a entrepris sur les West Aveyron communautés était intéressante et la preuve c'est qu'on fait partie des collectivités d'Aveyron les plus dynamiques en termes de développement des énergies renouvelables et même sur la transition énergétique et écologique, on est vraiment une communauté qui bouge, quoi, voilà. Et donc je suis arrivé à la vice-présidence, j'avais jamais pensé, puis bon, c'est petit à petit c'est venu, quoi. C'est comme ça, c'est... Je dirais que j'ai eu envie de faire partager ce que je ressentais moi pour l'interco, comment je voyais cette intercommunalité, la faire partager aux autres, là, et essayer d'amener l'interco sur devenir une intercommunalité de projet plutôt qu'une intercommunalité de service. Moi, mon idée, c'était de rendre aux communes les compétences. C'était quand même...
Mais pour compléter la question de mon ami Didier Dumas, est-ce qu'on est venu vous chercher ?
Non, pas vraiment, non, pas vraiment. Certaines mères me disaient pourquoi tu vas pas, quoi. Voilà, mais c'était pas.
J'avais cru entendre qu'on était venu vous chercher.
Certains me demandaient, quoi. Bon, certains me le demandaient, mais bon, pas tous. La preuve, c'est que j'étais élu qu'avec une voix de plus que mon concurrent, avec qui je m'entends très bien maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai cette faculté. Je suis un ancien rugbyman, c'est-à-dire que match de rugby, on s'en met plein la tête et quand il est fini, on boit un coup ensemble. Et j'ai gardé cette mentalité, c'est-à-dire que moi, la politique, c'est ça. Il y a une élection, on est vainqueur, on est vaincu. Si on est vaincu, ben on travaille quand même. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas travailler à l'avenir du territoire. Quoi.
Vous avez deux grands défis, apparemment, dans les projets qui vous portent et qui mènent votre réflexion. C'est rendre le territoire plus attractif, ça, vous saurez nous en dire quelques mots. Et vous avez déjà commencé à en parler, la transition écologique. Alors, quel est le programme, qu'est-ce que vous avez mis en place qui va intéresser nos auditeurs et nous deux en plus?
Oui, alors, mais sur l'attractivité du territoire, c'est de développer des projets pour tous et surtout pour que les gens, quand ils viennent chez nous, trouvent matière à y rester, parce qu'on s'aperçoit que toutes nos entreprises ont des difficultés de recrutement. Hein, on est tout à fait au plein emploi, c'est-à-dire que actuellement, on est autour des 5% de chômeurs, ce qui est, en France, c'est le plein emploi, c'est-à-dire que les entreprises ont de grosses difficultés de recrutement, donc on doit trouver des solutions pour attirer des jeunes couples sur notre territoire, faire venir des gens qui s'installent, qui alimentent ces entreprises et qui font vivre le territoire. On a un territoire qui est dynamique en termes d'économie, ça fait partie de l'attractivité. On a des entreprises quand même phares. Plusieurs sur le Villefranchois qui...
Vous pouvez me citer, s'il vous plaît?
Oui, l'ISI, Patine, la Sacor, enfin, ce sont des entreprises qui, chacune dans leur spécialité, sont des entreprises phares. Et j'en oublie beaucoup, et je m'en excuse auprès de ceux que j'ai oubliés, mais...
On va vous citer le nom de deux amis, c'est Christian Cast avec les Abysmans Cast.
Oui, Cast aussi, voilà.
Et puis CBU à Malville.
Oui, voilà, c'est pour ça que je m'en excusais si j'en oubliais.
Mais on en oublie aussi, évidemment.
Oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ces entreprises phares qui tirent vers le haut le territoire, qui sont des ambassadeurs du territoire. Et donc, nous, on a le devoir, en tant qu'élus, d'essayer de trouver des solutions. Alors, on a tout un tas de problématiques sur le territoire. L'attractivité, elle passe par la santé. C'est-à-dire, il faut qu'on ait des médecins, il faut qu'on ait des systèmes de santé. Voilà, donc on travaille au développement des maisons de santé. En fin d'année, là, on va débuter les travaux de la maison de santé de la Fouillade. On a lancé l'agrandissement de la maison de santé de Villeneuve. Demain, ça, c'est une étude pour une maison de santé à Villefranche. Tout ça, c'est dans un projet global du contrat local de santé. Après, sur tout ce qui est entrepreneuriat, on a un service d'Eveco qui est labellisé, qui accompagne très fortement les entreprises et les commerçants. On travaille maintenant sur un projet de comment relancer le petit commerce sur le territoire. On est en train de travailler à ce sujet-là, comment on peut redynamiser nos centres-bourgs, parce qu'il y a Villefranche, mais il y a aussi des petites communes qui ont quelques commerces et qui ont du mal à survivre. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'on a. Après, l'habitat, bien sûr. Y a un gros travail MPLH qui est en cours, MPLUI, on est en plein dedans, donc avec des réformes très fortes sur la constructibilité des terrains, avec une réduction drastique des surfaces à construire qui vont poser problème, mais on ne peut pas y échapper, c'est des lois. Donc on doit, nous, trouver des moyens de rentrer dans la loi et de permettre au territoire de se développer. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il faut poser tranquillement. Quoi.
On va s'accorder un petit moment, une petite pause musicale, j'entendais, et puis après on va reprendre cet entretien intéressant.
Très bien.
Burn out of control.
Vous êtes sur CFM Radio à Villefranche-de-Rouergue, émission Visa pour l'inconnu. Michel Mombressaud et Didier Dumas reçoivent aujourd'hui Michel Delpech, qui a été élu le 15 juillet 2020 président du Conseil. Président de l'Ouest Aveyron Communauté, et on était en train de développer, et surtout lui d'ailleurs, un certain nombre de sujets.
Il est là pour ça.
Et voilà. Et du coup, notre interrogation pourrait se poursuivre par rapport à la complexité que peut éventuellement se faire quand on a autour de la table 52 conseillers qui émanent de 29 communes en fait. Et qui doivent partager des réflexions. Et cet équilibre instable, vous en chargez avec habileté pour le rendre harmonieux et essayer de trouver la meilleure solution pour tous.
Oui, alors, un peu d'histoire. Quoi. Voilà, c'est une communauté de communes qui a été créée par la fusion forcée par l'État de 3 collectivités. Donc, on avait autrefois Villefranche, le Najacois et le Villeneuvois. Donc, on a regroupé ces 3 collectivités qui avaient des façons de travailler différentes. Sur Najac, très peu de compétences. Quoi. On avait les OM, mais on n'avait pris aucune compétence optionnelle. Sur Villefranche, quelques compétences. Il y avait de la mutualisation qui avait été faite et prise quelques compétences. Et sur le Villeneuvois, où ils avaient beaucoup intégré de compétences. Donc on avait ce mariage à faire avec donc une équation avec des paramètres assez compliqués à mettre en œuvre. Et où on a vu les premières années sous la présidence de Serge Roch, ça n'a pas été toujours simple. Il a fallu pour essayer d'harmoniser tout ça. Donc le but maintenant, c'est d'arriver à une harmonisation complète du territoire pour que tous les citoyens aient les mêmes services d'un côté à l'autre du territoire, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Voilà, donc ça c'était le premier. Alors bien sûr, on a en plus dans cette collectivité, on a 2 entités, on peut dire. On a un monde rural. Avec un monde très rural, plus on s'éloigne de Villefranche et plus la ruralité est grande, c'est-à-dire plus on est sur des communes souvent plus petite taille et qui sont loin du centre-ville. Et Villefranche qui représente quand même le pôle de l'intercommunalité, le pôle centre de l'intercommunalité, et qui a besoin, donc qui est une ville quand même qui a ses problèmes de centre-ville, qui a pas mal de problèmes dus à la spécificité de Villefranche. C'est une très belle bastide avec un riche patrimoine, mais qui aussi doit en assumer les conséquences, c'est-à-dire très difficile à aménager, très difficile à maintenir, disons, de l'activité. C'est très compliqué. Hein. C'est vraiment... voilà, donc... Il faut arriver à ce mariage, à cet équilibre entre le monde rural et le monde urbain. Et donc, voilà, l'Interco, elle est là pour essayer de créer cette amalgame, cette unité de territoire. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut que les élus communautaires prennent la... Que tous, autant même les citoyens, on ait ce sentiment, on a tous le sentiment d'appartenance à notre commune. Tout le monde, on a un clocher, on est attaché à notre clocher. C'est plus difficile d'être attaché à une Ouest Aveyron Communauté puisque on n'a pas, l'attachement au village, il est viscéral, quoi. Je veux dire, moi, je le vis, je suis très attaché à Monteil. Et donc là, demain, enfin, moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait tous cette sensation, cette envie d'appartenance à Ouest Aveyron Communauté, de manière à ce qu'on porte tous ensemble le territoire, parce que nous, les élus, on représente nos communes, mais on a besoin de citoyens. On ne peut pas faire des grands projets, on ne peut pas lancer des grands projets, avoir de grandes envies pour notre territoire, si demain, on n'a pas des citoyens qui nous rejoignent et qui nous accompagnent dans notre démarche. Voilà.
Alors, cette communauté de communes, les communautés de communes, est-ce qu'elles ont pour but, en finale, de supprimer les communes ?
Alors, je pense qu'à une époque, c'était peut-être dans l'idée de nos gouvernants. Je pense qu'à un moment donné, oui. Mais après, il y a eu un retour en arrière. On s'aperçoit que maintenant, on nous incitait fiscalement très fortement à intégrer des compétences. C'est-à-dire que si vous intégriez, on vous donnait des dotations supplémentaires. Donc il y avait un intérêt à intégrer. Maintenant, il y a un retour en arrière. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les sondages disent que l'élu de proximité par excellence, c'est le maire. Donc je pense que les gouvernants, ils sont quand même pas sourds. Enfin, de temps en temps, ils le sont, mais ils sont un peu autistes, mais quand même, dans l'ensemble, ils écoutent de temps en temps, ils regardent les sondages, ils s'aperçoivent que l'élu de proximité, c'est le maire, et qu'on a besoin des communes. Et moi, mon constat, enfin, mon idée depuis le début, c'est que il faut rendre aux communes ses compétences et ses raisons d'être. Si on les appauvrit de toutes leurs compétences, on va créer des déserts, on a créé des métropoles, on crée des sous-métropoles, on va encore créer des sous-sous-métropoles, et on va vider tous nos territoires ruraux de toute
oui,
vie.
Mais
quoi.
C'est
quand même grave. Quoi.
Oui, mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait quand même un minimum d'habitants dans les communes? Il y a des communes qui sont trop petites, elles n'ont pas de moyens financiers. Alors, bien qu'on conserve les mairies. Moi, je ne suis pas contre du tout. Mais il faudrait peut-être revoir un petit peu les capacités de travail, les possibilités par le nombre d'habitants.
Mais on a des moyens. C'est la mutualisation. On peut mutualiser des moyens. Jamais on nous a interdit de créer des syndicats pour. À une époque, il y avait des syndicats se créer, des SIDOM, des SICTOM, tout ça. On avait des possibilités, ça existe toujours. Et puis la mutualisation, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Ça peut se faire même à l'intérieur d'une communauté de communes. 3 ou 4 communes peuvent créer quelque chose pour avoir, par exemple, un équipement spécial, quelque chose comme ça. C'est pas forcément. Enfin, moi, il me semble que la gestion d'un équipement, quand elle est faite dans la proximité, c'est-à-dire, elle est beaucoup plus simple. Quand vous gérez un équipement à Villefranche qui se trouve à l'autre bout de la communauté de communes, la proximité, elle n'y est pas. Vous avez donc impossibilité à le gérer comme il faut. Vous n'arrivez pas à répondre aux besoins.
L'équipement sportif, par nature même, il pourrait être mutualisé pour une partie d'entre eux. Partie de celui-ci. Par exemple, un stade.
Les stades, moi, je pense que ça ne pose aucun problème. Hein. C'est les communes qui les gèrent. Là, maintenant, on a rendu les stades, par exemple, à Villeneuve. Villeneuve avait la gestion. Oui. L'interco des stades, c'était Villeneuve qui l'avait. Enfin, l'ancienne Comcom de Villeneuve, on les a rendus. Je pense que ça ne pose pas de problème. On a déjà des regroupements de clubs. On sait très bien qu'un club, moi, je vois à Monté, il n'y a plus de club de foot. C'est un regroupement de 4 communes qui permet d'avoir un club de foot. Donc, le problème de la mutualité. Des stades, ça n'est pas un. On conventionne avec les clubs, on met à disposition les clubs, les maires. Le contraire, on est content quand on a une installation sportive qu'elle serve. Avoir un terrain qui ne sert plus.
Dans votre réponse, c'est plus une mutualisation qu'une suppression des petites communes, c'est ça en fait que vous nous dites.
Moi, je pense que la commune, elle a du sens de parler. On parle de mobilité maintenant, là, on aborde un autre sujet, mais par exemple, la mobilité. Si vous supprimez la mairie, ça veut dire que demain, tous les gens, quand ils vont, au lieu d'aller à la mairie, ils vont aller au chef-lieu de canton ou, je ne sais pas, ils vont devoir faire 20, 25 kilomètres. Et là, on n'est pas du tout dans. On s'éloigne de ce qu'on nous préconise de faire, c'est-à-dire de réduire les distances, de réduire les trajets en voiture. Donc, voilà, moi, je pense que la commune. Monteil, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas loin de Villefranche, mais les gens sont contents de venir à la mairie.
C'est une bonne solution.
Et c'est la solution, c'est le service de proximité. On a créé 2 maisons France Service avec l'État et la MSA. Il y a 2 maisons France Service qui sont créées à La Fouillade et à Villeneuve. C'est des outils qui sont bien pour la population. On a rapproché le service public de la population. Sinon, il fallait qu'ils viennent à Villefranche ou des fois pas trouver d'interlocuteur. C'était plus compliqué. Là, au moins, on rapproche le service public de la population.
Enfin, c'est un équilibre quand même difficile à trouver puisque dans un premier temps, on a fermé des postes. Les trésors publics se sont retirés un peu partout. Mmh. Les commerces ont fini par se fermer. Donc, cette prise de conscience a finalement eu lieu. Et du coup, maintenant, on freine à des quatre pieds, on va dire, pour revenir un peu en arrière là-dessus. Ouais. Et c'est pas impossible, puisque la prise de conscience est là déjà.
Oui, c'est pas possible, mais ça se fera différemment. C'est-à-dire que c'est plus l'État, la plupart du temps, c'est plus l'État qui assume. Comme la Poste, tous ces services-là ont disparu, le Trésor public, tout ça, ça a disparu. Bon, après, il y a aussi l'outil informatique. Hein. On a une génération encore qui n'est pas formée, mais je pense que dans les 20 ans à venir, tout le monde maîtrisera l'outil informatique. Donc, le fait de maîtriser plus ou moins l'outil informatique, ça permet d'avoir les services éloignés. On peut le faire par Internet, tout le monde, bientôt. On espère que tout le monde sera couvert par la fibre.
Oui, puis des communes que vous avez évoquées, la Poste, qui ont fait que la commune emploie l'employé de Poste.
Il y a eu des partenariats signés avec les Postes. Il y a des choses qui se font comme ça. Je vous dis, les maisons France Service, c'est l'exemple même de ce que, qu'on peut faire. Et c'est là où l'État s'appuie sur les collectivités pour mettre en place des choses, mais c'est des co-constructions qui sont intéressantes parce que bon, ça demande à la collectivité de participer, mais c'est plutôt, enfin moi à mon sens c'est très bien et l'État nous accompagne financièrement, donc c'est des choses qui vont dans le bon sens à mes yeux.
Où ça se fait quand même un peu en douceur et de la même façon on peut imaginer que les citoyens qui aujourd'hui sont un peu distants par rapport à tout ce qui se fait. Un jour vont finir par se rapprocher de ces
bien
solutions.
Sûr, mais typiquement français, le changement, on l'a bien vu, le changement il n'y a pas si longtemps que ça. Le changement en France, il est très difficile.
C'est pas maintenant en fait.
C'est pas nouveau quoi. Donc je pense que bon, ça, comme tout changement, au début il y a une adaptation et puis après, quand au bout de quelques temps on fait un bilan, on s'aperçoit que finalement c'est pas si mal quoi. On arrive à faire des choses. Mais voilà, il faut les choses changent. C'est la société qui évolue aussi. Hein. On a en 10 ans, les choses ont changé à une vitesse extraordinaire. Quoi. C'est-à-dire, moi je crois que on fait partie des gens qui ont 70, j'ai bientôt 70 ans, donc j'ai vécu, je pense que les 10 dernières années ont été, en termes de changement, ont été extraordinairement rapides, quoi. On a l'informatique, tout ça, on a tous notre téléphone à la poche, on peut tout faire avec. Avant, on s'envoyait des signaux de fumée, bon, ça y est, maintenant, c'est passé cette époque, on a le téléphone, mais on en est esclaves aussi, quoi. On n'a plus la tranquillité qu'on avait il y a quelques années aussi.
Oui, mais c'est l'évolution qui le veut.
Oui, c'est ça, c'est la société.
Vous avez, je crois, à votre qui vous entoure, 73 salariés.
Oui, à peu près, oui, je crois, oui, 73.
Voilà.
Ouais.
Alors, on peut penser que... là, c'est une provocation. Hein. Ouais. Si on peut penser qu'il y en a beaucoup, est-ce que tous ont du travail?
Alors, vous partagez même pas la même analyse que mes employés qui pensent qu'il en manque.
Je provoque exprès pour vous permettre de vous...
On a une réponse... une masse salariale très faible par rapport à d'autres collectivités. Ça vient du fait de la construction de la collectivité. Comme je vous l'ai dit... ma vision de la collectivité, c'est de rendre compétence aux communes. Donc, c'est-à-dire que les services, c'est les communes qui les gèrent en direct. Donc, nous, on a très peu de compétences optionnelles. On a surtout des compétences obligatoires, donc qui sont l'économie, les ordures ménagères, enfin, la promotion du tourisme, le DVECO, le développement économique. Voilà. En ayant très peu de compétences, on a une collectivité qui n'est pas très chargé en personnel. Vous avez des collectivités voisines, vous allez à, je pense, Saint-Antonin, ils doivent être plutôt autour des 120 que 70. Donc on est très peu chargé en personnel, je crois que c'est de l'ordre de 30%. La masse salariale représente 30% du budget de fonctionnement, c'est très peu par rapport à d'autres collectivités.
Non mais je ne doute pas qu'ils ont tous beaucoup de travail parce que quand on voit la complexité des dossiers, et que il faut du monde.
Oui, et puis on a la chance, je le dis souvent, je le souligne souvent, d'avoir de grandes compétences à l'intérieur de l'Interco. On a vraiment des personnes... voilà, qui connaissent les dossiers, qui avancent bien. Et puis, moi, j'ai voulu mettre ces services-là au service des communes. C'est-à-dire que les communes qui sont... On a quand même une complexification. Les dossiers se complexifient de jour en jour. C'est-à-dire, quand on porte un dossier de demande de subvention, c'est très compliqué. Hein. Donc, j'ai demandé à ce que nos services soient au service des communes. Et donc, on fait de l'ingénierie pour les communes. On accompagne. Alors, on a deux salariés qui sont dédiés rien qu'à ça.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas des doublons avec les mairies et les communautés de communes?
Non, c'est un partenariat de travail. Bon. On a un partenariat, la plupart des communes n'ont pas les bons. Villefranche est un peu à part parce qu'ils ont des services, ils ont quand même une structure qui est beaucoup plus importante, qui est équivalente, même plus importante que la nôtre en termes de salariés. Mais pour les communes rurales, je pense que c'est un plus. On leur apporte des connaissances, on leur dit, par exemple, s'ils ont un projet, on peut aller chercher telle subvention, on peut vous accompagner sur tel projet. Et on accompagne aussi financièrement, puisqu'on a mis en place des fonds de concours aux communes. Et on apporte de l'argent, on n'apporte pas que de l'ingénierie, hein. on met des voilà, des sommes assez importantes, puis c'est 3,2 millions qui ont été prévus sur le mandat pour accompagner les communes dans le développement du territoire.
Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir à entendre, et surtout pour les maires. On va faire une petite pause musicale, comme tout à l'heure.
Très bien.
Not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you, I found a rhyme. If there is a light, you can always see. And there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't doubt. And there is a light, don't let it go out. And this is the
à l'écoute de l'émission Visa pour l'inconnu, animée par Michel Montbrissouz et Didier Dumas. Vous êtes à l'écoute sur l'antenne de CFM Radio 90.2 Villefranche, 101.6 Figeac. Alors c'est Didier qui va poser des questions qui vont vous intéresser.
Monsieur Delpech, vous avez évoqué la présidence de Serge Roch et un mandat qui était le vôtre à cette époque et qui concernait les énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, les énergies renouvelables, quelques années seulement sont passées, mais le sujet est encore plus d'actualité qu'avant. Donc, on aimerait bien savoir ce qui se passe sur l'Ouest Aveyron en matière d'énergie renouvelable.
Voilà, donc Ouest Aveyron Communauté, donc, dans le dernier mandat, donc, j'étais en charge, vice-président en charge du PCAET, Plan Climat et Énergie du Territoire, qui a mis en évidence notre manque, enfin notre dépendance à l'énergie, c'est-à-dire qu'on importe 86% de nos énergies, quoi, de notre énergie, toute énergie confondue, chauffage, déplacement et tout. Donc l'idée à l'époque, dans le cadre du PCAET, c'était de devenir un territoire énergie positive à l'horizon 2050, et on part de très très loin puisqu'on n'avait pratiquement rien. Donc on a mis en place, on a répondu à plusieurs appels à projets, on a été retenu lauréat par la région, on a lancé la création d'Enercoa, qui est donc une coopérative société coopérative d'intérêt collectif, qui donc a été créée grâce à Ouest Aveyron Communauté, qui maintenant est gérée par des citoyens. Et qui développe donc plusieurs projets, qui ont développé 8 projets en toiture dans des communes, qui maintenant travaillent avec des citoyens sur des projets individuels. Enfin voilà, c'est parti, ça roule tout doucement et ça avance, ça progresse bien. En parallèle, on a travaillé sur un projet de parc au sol à la Ramière, qui va voir le jour bientôt, ça y est, on arrive au bout du long cheminement où l'intercommunalité et la commune de la Ramière avec Enercoa et Territoire Énergie Lot, qui est l'équivalent du syndicat d'électrification de l'Aveyron, donc du CEDA, dans le Lot, on est 4 partenaires publics et on aura 49% de cette société qui va se créer pour développer ce parc au sol de la Ramière de 3 hectares, 7, je me rappelle, je crois, ouais. Voilà. Donc, on avance tout doucement. On a un projet sur le parking de l'ISI, d'ombrières photovoltaïques. On a d'autres projets, donc on travaille aussi, on a écrit une charte de développement des énergies renouvelables, donc pour permettre aux communes, justement, de ne pas subir en permanence les assauts des développeurs qui arrivent sur nos territoires et qui veulent nous vendre leurs belles machines et qui se soucient peu de l'acceptation ou du désir du citoyen. Donc nous, on a mis en place une charte, elle est ce qu'elle est, elle a de valeur, elle a qu'une valeur, pas forcément juridique, mais elle a au moins une valeur, c'est qu'elle permet de dire aux développeurs qui viennent chez nous, voilà, vous venez chez nous, on a des règles, vous acceptez nos règles, vous venez pas, voilà. Donc on est là dans cette démarche, c'est surtout pour l'éolien, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de... c'est pas gagné, quoi. On va dire que même pour installer de l'éolien sur nos territoires, ça va être compliqué, parce que entre les contraintes géographiques, le peu de vent qu'on a, parce qu'il faut pas... On n'est pas quand même dans un territoire très venté. Et les raccordements, les problèmes de raccordement, on s'aperçoit que finalement, les sites sont très peu nombreux et qu'après, il y a une question d'acceptation du citoyen, des territoires aussi, des maires, des communes. Voilà. Et puis après, il y a d'autres projets sur la méthanisation, des petits projets. Sur l'énergie bois, on a un peu retardé parce que c'est très compliqué à mettre en place. On n'a pas de grandes forêts domaniales, donc on a surtout beaucoup de forêts qui sont... détenues très éparses avec des petites surfaces qui sont détenues par des propriétaires des fois qu'on n'arrive même plus à identifier. Donc la mise en place de la gestion de la forêt sera plus compliquée, mais voilà, on a abordé donc la transition énergétique sous un peu tous ces...
L'hydraulique, vous avez ?
L'hydraulique, le problème c'est qu'on a très peu de possibilités, puisque la tendance donc des agences de l'eau, c'est plutôt de rendre les rivières comme elles étaient auparavant, et donc on est plutôt sur la démolition des petites chaussées que non pas la mise en valeur des chaussées. C'est plutôt dans ce sens qu'on va. Et après, donc sur le Lot, il y a une usine électrique qui s'est ouverte à Ambeyrac, c'est dernièrement, mais qui est un projet qui a été lancé il y a 15 ans. Là, nous, on a pu que le constater, mais on s'aperçoit que c'est un bel ouvrage qui a été fait et qu'on pourrait, il y a des possibilités. Voilà.
D'accord. Écoutez, on va peut-être changer un petit peu de questions. Je voulais vous demander combien de temps vous prenez l'occupation de maire et celle de président de la communauté des communes. Je rappelle que nous recevons M. Delpech.
Oui, alors maire, je reconnais, j'ai la chance d'avoir un adjoint qui est très présent. Donc, mon premier adjoint me supplée beaucoup. C'est un copain, donc il est jeune retraité, tout petit peu plus jeune que moi, donc il est à la retraite, il a beaucoup de temps et il me supplée beaucoup. Ça me permet d'être très présent à l'Interco et... voilà, je pense que j'y suis, je suis aux 35 heures largement, hein, voilà.
Ça ne m'étonne pas, mais il est bon de le dire.
Largement aux 35 heures, mais bon, ça fait partie je le savais avant,
hein.
Je savais que l'engagement, on le prend, on s'engage pour 6 ans, sinon il faut pas y aller, il faut rester chez soi. Hein.
Alors, autre question, quelle est votre philosophie de vie?
Oh, je ne sais pas si j'ai une philosophie de vie. Je ne sais pas si je...
Vous n'avez pas eu le temps de vous arrêter à la question.
Je ne me pose pas trop la question. Je ne sais pas, je ne suis pas très philosophe. Moi. Non, je suis un actif. Je pense que voilà, je suis quelqu'un d'assez... Bon, j'étais très longtemps chef d'entreprise. Personnellement, j'ai envie d'aller de l'avant. Voilà, mes choses, moi, j'aime bien que les choses avancent, que ça aille vite, qu'on essaye d'aller vite. Mais tout le temps en ayant des modèles, c'est-à-dire même dans nos projets intercommunaux, des projets communaux, j'aime bien avoir des modèles qui tiennent la route, c'est-à-dire que quand on fait un projet, on analyse en amont le coût du projet, mais pas que, c'est-à-dire le coût de l'entretien, le coût de la maintenance, du fonctionnement. Parce que souvent, ça a été oublié dans des projets. On s'aperçoit que des projets ont été portés, on a mis en place des choses extraordinaires, hein. C'est très bien, mais ça vieillit. On n'a pas prévu l'argent pour réparer quelques années après, et nos successeurs, il faudra quand même leur donner les moyens de faire vivre tout ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, c'est bien, enfin, on a tous de grandes idées, on a tous envie que ça marche. Et donc moi, l'idée, c'est d'avoir voilà, des modèles économiques qui tiennent la route et qu'on puisse assumer ce qu'on construit maintenant, qu'on puisse l'assumer pour des années à venir. Quoi.
Bon, vous avez la qualité d'être au service des autres. Mais
c'est une philosophie qualité. Aussi. Ça peut être une philosophie aussi, ouais. De voir dans la durée. Hein,
Ah mais tout à fait.
Parce que la vision.
Je pense que c'est une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on construit quelque chose, mais on ne construit pas pour nous, on le construit pour les générations à venir, et qu'il faut être prudent et surtout assurer que demain l'outil il soit en relation avec les besoins. La première chose à s'assurer. Et qu'on puisse le faire vivre. Parce que si on crée un outil qu'on ne peut pas faire vivre, c'est la catastrophe. Et c'est des coûts. Après, derrière, il y a des coûts pour la collectivité. Quoi.
Alors, on va rester dans le domaine de la gouvernance, mais élargir la réflexion. Quels sont vos propos sur la politique menée par le gouvernement actuel ? S'y livrez-vous ?
J'aurais du mal à me livrer, non. Je sais pas, je crois que c'est très difficile. Moi, je vais vous faire une réponse de Normand pour un Aveyronnais, c'est compliqué, quoi. Je rigole. Je pense que, voilà, comme toutes, bon, on parle, par exemple, des réformes des retraites, c'est une réforme qui est dure à faire passer parce que il faut un courage politique pour y aller. Et on sait pertinemment qu'en France, on a du mal à réformer. On s'aperçoit que chaque fois qu'il y a une réforme structurelle très importante, les pays voisins sont à 67 ans et plus. Nous, pour arriver à 65, on voit que ça pose problème.
Oui, peut-être que les choses ont été mal expliquées aussi. Parce que quand même...
Peut-être, après, ils ne sont pas très bons commerciaux. Je pense que là-dessus, ils ne sont pas très bons. Mais bon, je pense que la méthode aussi a été un peu violente. Après... Voilà, moi, je juge pas trop... je pense que l'exercice du pouvoir est tellement compliqué...
Oui, c'est vrai que c'est difficile.
Moi, en tant qu'élu, je me permets pas de dire... je me permettrai pas de juger... après, ils font des choix. Tout homme politique, à un moment donné, il a un choix à faire. Il a des convictions. Le tout, c'est que, voilà, après, c'est d'essayer de les faire passer et de les expliquer au mieux pour que ce soit accepté par tout le monde. C'est ça qui est le plus difficile. Alors, quand on s'adresse à 28 000 habitants, c'est facile. Quand on s'adresse à plus de 60 millions, c'est plus compliqué. Et puis, les sujets ne sont pas les mêmes, quoi. Voilà, mais on s'aperçoit que, quand même nous, sur des projets... On parle des ordures ménagères, par exemple, la transformation demain de la collecte des déchets, on s'aperçoit que ça inquiète beaucoup. Et les gens, c'est un changement profond. Et ça inquiète les gens. Donc, on leur change une habitude. Et donc, on a besoin d'être pédagogue, d'expliquer, de communiquer. Et c'est là où peut-être nos dirigeants, ils sont pas très bons. Ils ont fait l'ENA, ce sont des bons technocrates, mais ils ont loupé quelque chose quelque part. Peut-être, je sais pas. Mais je me permets pas de juger parce que d'abord je n'ai pas les capacités qu'ils ont.
Il y a ça aussi. Et l'état des finances de la France, est-ce que vous êtes préoccupé?
Moi, je pense que ça fait je crois que je connais le dernier président à l'équilibre, c'était Giscard, hein, il me semble.
Je crois que c'est le dernier.
Oui, donc après, Giscard, ça, c'est parti dans tous les sens. Je crois que le mal est fait, quoi, malheureusement, et que je sais, là, franchement, je vois pas comment on peut. Enfin, à part de dire à tout le monde on serre la vis et on arrête tout, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi,
hein? Parce qu'il semblerait que là on emprunte toujours, et le jour où on aura des difficultés à emprunter, c'est là qu'on risque
c'est
de
surtout le jour où on va nous demander de rembourser que ça va être compliqué. Moi j'emprunter c'est toujours facile, c'est le jour où on nous demande de rembourser. Moi j'y me semblais, je sais pas. Ouais. Mais bon, ça c'est le côté très aveyronnais.
On va y réfléchir, en écoutant encore un morceau musical.
Ouais. Allons-y. Vous êtes à l'écoute de CFM Radio, Visa pour l'inconnu, Michel Mombressus.
On s'aime tellement.
Nous recevons avec plaisir Monsieur le Président de la Communauté des Communes, qui est aussi maire de la commune de Monteil, Monsieur Michel Delpech. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Michel Delpech, je vous propose de vous poser vous-même la question. C'est-à-dire que je vous propose de dire ce que vous aurez souhaité dire qu'on ne vous a pas demandé.
Qu'on n'a pas abordé. Voilà, c'est compliqué, là. Un sujet, moi, qui me tient à cœur, on en a parlé un peu, c'est l'appartenance, la notion d'appartenance à West Aveyron Communauté, quoi. Et quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'il faudrait que les élus communautaires aient la sensation, quand ils sont dans la... dans l'enceinte de l'interco, quand on porte des projets intercommunaux, ils aient la vision intercommunale et non pas la vision communale de la chose. Ça, c'est très compliqué. C'est de faire abstraction du fait qu'on est maire d'une commune ou élu d'une commune et qu'on vienne défendre un projet intercommunal. Donc, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est d'ailleurs de voir l'intérêt communal. Il y a l'intérêt communal quand on est à la commune, on défend sa commune. Mais quand on est élu intercommunal, on défend un projet intercommunal, on défend un projet de territoire, puisqu'on a voté un projet de territoire, tout ça c'est en place. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'aimerais qu'on ait, voilà, que cette notion d'appartenance, j'en parlais tout à l'heure, à un territoire, on appartient à un territoire, on fait partie d'une commune, mais la commune appartient à un grand territoire de 29 communes, de 28 000 habitants, et que, voilà, tous les élus se sentent, ils sont chargés de mission pour cette intercommunalité et ils doivent défendre cette intercommunalité. Et qu'ils aient l'envie, quand il y a des projets qui sont quand même là majoritairement votés à l'unanimité ou presque, eh bien qu'ils défendent demain ces projets-là sur leur commune. C'est important. Parce que si on n'a pas le relais des maires et des élus ruraux, et des élus en général, l'intercommunalité aura du mal à vivre. Parce qu'on a besoin de tout le monde, et particulièrement des élus, qui sont le relais, auprès des citoyens. Et si on n'a pas le même message, cette intercommunalité, elle aura du mal à vivre. Elle ne pourra pas se développer harmonieusement. On en parlait en début d'interview. On a besoin de créer cette entité, d'avoir cette reconnaissance. West Aveyron Communauté doit exister. On doit être comme on est Aveyronnais, comme on est Monteillois ou Villefranchois ou il faut être West Aveyronnais.
Nous avez donné les clés pour réussir dans ce domaine-là, dans le domaine de chez nous, mais réussir sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Réussir sa vie?
Moi, je pense qu'on réussit sa vie pour... D'abord, où est la réussite? Point d'interrogation. Je pense que chacun...
C'est d'être bien dans sa peau, c'est d'être...
D'être heureux dans ce qu'on fait, de se fixer des buts. Mes parents, j'ai eu une éducation très traditionnelle, très aveyronnaise, où le respect des valeurs, des choses comme ça. Moi, je suis très attaché à ça. Le respect des valeurs,
c'est très important.
L'engagement, il y a des choses, la parole donnée, voilà.
Belle conclusion, on pourrait dire, pardon, j'ai presque l'impression de vous couper la parole, mais émission passionnante, on vous écoutera encore longtemps, et peut-être ça sera l'objet d'une prochaine invitation, ce qu'on fera avec grand plaisir, monsieur Delpech. Il nous faut rendre l'antenne. Vous nous avez passionnés, merci.
Mais merci à vous, parce que c'était passionnant d'échanger avec vous. Et c'est avec plaisir que je reviendrai, si vous le demandez.
Merci.
Merci aussi. Vous étiez à l'écoute de Visa pour l'inconnu. Et nous vous donnons rendez-vous dans un mois, Michel Montbressou et Didier Dumas. À très bientôt.